VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition de 18h30 en universel. On est jeudi 10 mai 2018, Abdourahmane Diaye en direct de Washington. Voici le titre. Le Pentagone a publié les résultats de l'enquête sur la mort de 4 soldats américains dans une embuscade au Niger et évoque des manquements dans la conduite de la mission. L'opposition guinéenne annonce la suspension de son dialogue avec le pouvoir et la reprise des manifestations. Au Kenya, la rupture hier soir d'un barrage fait au moins 41 morts dans le centre du pays. Après les frappes israéliennes contre les installations iraniennes en Syrie, la Russie appelle au dialogue tandis que Washington soutient le droit d'Israël à se défendre. Puis les 3 Américains qui étaient détenus en Corée du Nord sont rentrés aux États-Unis. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et le sport. Mais tout d'abord, le journal. Le ministère américain de la Défense a rendu public ce jeudi un rapport d'enquête sur la mort de 4 soldats américains au Niger lors de combats avec des djihadistes. L'armée américaine met en cause des procédures contradictoires et ambiguës dans l'opération menée en octobre dernier. Le point avec Idriss Far.
La conférence de presse est tenue au Pentagone. Elle était dirigée par le général Thomas Waldhauser, qui est le commandant chef de AFRICOM. Le chargé de l'enquête au niveau de AFRICOM, le major général Robert Cloutier, et tout ceci en présence de Robert Carême, qui est l'adjoint au secrétaire à la Défense pour les affaires de sécurité intérieure. Ça a pris au moins 6 mois. Les enquêteurs ont recueilli les témoignages de 144 personnes, dont 37 survivants. Ils ont voyagé dans 6 pays. Ils sont allés sur le terrain de l'attaque. En condensé, ce qu'ils ont recueilli, c'est un rapport de 6000 pages, dont le condensé de 8 pages a été remis aux journalistes. Donc, les enquêteurs ont blâmé des procédures contradictoires et ambiguës dans la prise de décision et aussi dans le manque de caractérisation claire de qu'est-ce que c'était l'opération qu'il devait faire dans une région qui est très, très dangereuse. Donc, pour l'essentiel, ils n'ont pas pris de sanctions en sens disciplinaire contre peut-être 2 ou 3 capitaines qui étaient sur place qui ont un peu trafiqueté les ordres de mission. Donc, pour le moment, c'est ça. Mais ce qu'ils disent, c'est que les soldats américains et nigériens ont été débordés, si j'ose dire, parce que les assaillants étaient plus d'une centaine.
Beaucoup plus nombreux.
Voilà, beaucoup plus nombreux. Et aussi, je pense que l'aide, quand ils ont appelé du renfort, il a fallu plus d'une demi-heure pour que les renforts arrivent sur place. Ils ont remercié la France qui a envoyé 2 mirages là-bas qui ont plus ou moins aidé à dissuader les assaillants. Les 4 soldats américains qui ont été tués, ils sont tous morts au combat. On ne les a pas arrêtés tels que certains médias l'ont rapporté, mais que plutôt c'est après leur mort qu'ils ont été dépouillés.
C'est un peu ce que nous, via Afrique, nous avions dit. Hein.
Absolument.
Donc, ils confirment plus ou moins ce que...
Sauf qu'ils n'ont pas répondu clairement sur à partir de quand la mission des Américains a changé. Ils ont passé la nuit là-bas, vers Tongo Tongo. Le matin, ils sont venus dans Tongo Tongo. Et la mission a changé de nature parce qu'ils se mettaient maintenant à rechercher un proche de Abu Adnan al-Sakhrawi. Je pense qu'à l'époque, on avait donné même le nom de Dondou Chefou. Ils ne l'ont pas cité. Et qu'ils le recherchaient en rapport avec un Américain qui était enlevé dans la région depuis 1 an et demi, ce qui a été fatal.
C'était Idriss Fall, rédacteur en chef de VOA Afrique. En Côte d'Ivoire, 149 personnes ont été condamnées à l'issue de 30 procès liés à la crise post-électorale. C'est ce qu'a annoncé la justice ivoirienne qui donne ainsi pour la première fois un bilan. L'opposition guinéenne a annoncé la suspension de son dialogue avec le pouvoir qui refuse, selon elle, de trouver une solution au contentieux des élections locales de février. Elle a également prévu une reprise de ses manifestations par une journée ville morte à Conakry. Ce sera lundi. Le président guinéen Alpha Condé et le chef de l'opposition, Sélou Diallo, s'étaient rencontrés le 2 avril été convenu d'une série de mesures pour désamorcer la tension née des élections locales du 4 février. En Centrafrique, une marche de protestation contre les violences à Bangui, à l'appel d'un opposant, a été dispersée par la police par crainte de violences. Boutiques et magasins ont aussitôt fermé et les taxis, motos, minibus et de transport ont également quitté le centre-ville de Bangui, selon l'AFP. Cette marche pacifique avait été organisée à l'appel de l'opposant Joseph Bendunga. Au Kenya, au moins 41 personnes sont mortes et 36 blessées à la suite de la rupture du barrage privé Patel près de Nakuru, dans le centre du pays. Nathalie Barche.
Les services de secours ont été à pied d'œuvre toute la nuit pour mettre à l'abri les rescapés et récupérer les victimes. Le barrage était utilisé pour l'irrigation et entouré d'habitations de fortune d'ouvriers agricoles. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants. Selon la Croix-Rouge kényane, au moins 500 familles ont été affectées par la catastrophe. Un centre d'enregistrement a été ouvert sur place pour réunifier les familles et signaler les portées disparues. La présidence s'est dite attristée par les pertes en vie humaine et a salué le travail des équipes de secours. La Croix-Rouge a lancé un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés. Plus de 170 personnes sont mortes au Kenya depuis mars et 215 au Rwanda depuis janvier à cause des pluies torrentielles en Afrique de l'Est ayant entraîné des inondations et glissements de terrain.
En Afrique du Sud, un imam a été tué et deux personnes gravement blessées lors d'une attaque au couteau dans une mosquée de la banlieue de Durban. La raison de l'agression n'est pas encore connue. Après la prière de la mi-journée, trois hommes, présentés par les médias locaux comme des Égyptiens, sont entrés dans une mosquée de la ville de Verulam et s'en sont pris à un imam, un fidèle et un concierge. Avant de s'enfuir en voiture, les assaillants, qui disposaient selon les témoignages d'armes à feu, ont lancé un cocktail Molotov dans la mosquée qui a partiellement pris feu.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La tension est montée d'un cran entre l'Iran et Israël. L'État hébreu a bombardé des dizaines de cibles iraniennes en Syrie en représailles à une attaque attribuée à l'Iran. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après Tel Aviv, une brigade iranienne a tiré une vingtaine de roquettes vers une partie du Golan occupée par Israël. Les tirs iraniens n'ont pas fait de victimes selon l'armée israélienne, qui ajoute que quatre des projectiles ont été interceptés par le système de défense anti-aérien. Les représailles israéliennes ont tué au moins 23 combattants, dont 18 étrangers, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'État hébreu a assuré ne pas chercher l'escalade, tout en se déclarant prêt à tous les scénarios. « J'espère que cet épisode est clos », a déclaré Avigdor Lieberman, ministre israélien de la Défense. Washington soutient le droit d'Israël à se défendre. Berlin a dénoncé une grave provocation iranienne. Moscou a appelé Israël et l'Iran à la retenue. Londres et Paris les invitent à la désescalade. Les tensions ont été ravivées par la querelle sur le nucléaire iranien. Israël a toujours été contre l'accord de 2015. Peu avant le retrait des États-Unis de cet accord, le premier ministre israélien avait dit avoir des preuves que Téhéran cherche à se doter de l'arme atomique, ce qui a aussitôt été démenti par l'Iran.
Par ailleurs, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé tout à l'heure que l'Iran avait franchi une ligne rouge en tirant des roquettes vers Israël depuis la Syrie. Notre réaction a été en conséquence, a-t-il dit. La Russie et l'Iran vont poursuivre une étroite collaboration sur l'accord sur le nucléaire après la décision du président américain Donald Trump de se retirer de ce texte. C'est ce qu'a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov et son homologue iranien Abbas Arabchi se sont dit attachés lors d'une rencontre à Téhéran à la sauvegarde de l'accord signé en 2015. C'était bien avant l'aube ce matin, mais le président Donald Trump était à la base Andrew Air Force près de Washington pour accueillir les trois Américains qui viennent d'être libérés par Pyongyang. Le point avec Bagassi Koura.
Peu avant 3h du matin, heure de Washington, le président américain et la première dame Melania Trump sont montés à bord de l'avion qui ramenait les trois hommes sur la base militaire Andrew près de Washington. Le secrétaire d'État Mike Pompeo avait fait le déplacement à Pyongyang pour rencontrer le leader nord-coréen la deuxième fois en un mois. « C'est une nuit très spéciale pour ces trois hommes extraordinaires », a affirmé M. Trump lors d'un échange avec les journalistes sur le tarmac, les anciens détenus visiblement très émus à ses côtés. Dans un tweet matinal ce jeudi, le président Donald Trump a aussi indiqué que sa rencontre historique avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un aura lieu le 12 juin à Singapour.
En France, la famille d'une femme de 22 ans morte après avoir été raillée au téléphone par les secours qui ont refusé de la prendre immédiatement en charge a réclamé justice. Que justice soit faite, c'est cela notre première préoccupation pour cet enfant qui était aimé de tous, a déclaré le père de Naomi Musenga au cours d'une conférence de presse à Strasbourg. En Malaisie, Mahathir Mohamad, 92 ans, a prêté serment comme premier ministre, devenant le plus vieux dirigeant au monde, élu au monde après la victoire de l'opposition aux législatives. Vêtu d'une tenue traditionnelle musulmane malaisienne, il a prêté serment devant le roi Sultan Mohammed V au palais national. C'est la première fois depuis l'indépendance que l'opposition dirige le pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manirakiza qui nous présente la Minute Éco.
La plupart des devises africaines ont perdu environ 20% de leur valeur entre 2013 et 2016, d'après la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Cette situation a eu plusieurs influences négatives sur les économies africaines à travers les entreprises. La baisse des cours des matières premières est à l'origine de la dépréciation qui a aussi provoqué des crises de liquidité. Une stabilisation du cours des devises en Afrique australe notamment a permis une amélioration en 2017. La BAD envisage de mobiliser 170 milliards de dollars pour de nombreux projets de construction de routes, de ports, d'aéroports qui respectent les standards internationaux. La BAD veut combler le déficit de l'Afrique dans le domaine des infrastructures. Le constructeur automobile américain Ford a suspendu temporairement la production de son pick-up F-150 qui a provoqué des ruptures d'approvisionnement. La fermeture provisoire de la principale usine d'assemblage de Dearborn dans le Michigan va envoyer 4000 personnes au chômage technique en début de semaine. 3600 salariés de la seconde usine de production à Kansas City dans le centre du Missouri ont été contraints de rester chez eux. Ford explique que manquer de pièces importantes pour fabriquer ce véhicule le plus vendu aux États-Unis, la marque à l'ovale bleu coûte à partir de 46 700 $ le véhicule. En avril, ses ventes ont augmenté de 4% sur un an. Les productions de General Motors, de Fiat Chrysler et de Mercedes-Benz sont également perturbées.
Et on passe au sport, c'est avec vous Yacouba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane et bonsoir à tous.
15e tour cycliste international du Bénin, la domination du Burkina Faso se poursuit.
Et oui Abdou, à l'issue de la 3e étape Klibo-Dassa-Zoumné, 115 km, c'est le Burkinabé Salfo Bikienga qui est arrivé en tête devant ses compatriotes Salifou Yarbanga, 2e, et Abdoulaziz Nikema, classé 3e. Déjà vainqueur de la 2e étape hier, Salifou Bikienga conserve donc son maillot jaune. 4e étape demain vendredi et ça se court entre Abomey et Lokossa, longue de 78 km.
Du football, 6 arbitres africaines vont officier au mondial féminin des moins de 20 ans.
Oui, il y a des arbitres africaines tout à fait Abdourahmane. La FIFA dévoile aujourd'hui même la liste des officiels retenus pour les matchs de la Coupe du Monde des moins de 20 ans féminins. Au total, 15 centrales et 30 assistantes ont été retenues. Parmi elles, 6 issues du continent africain. L'Éthiopienne Lydia Tafese Abede et la Zambienne Gladys Lengwe sont les arbitres centrales retenues. Elles seront accompagnées par les assistantes Bernadette Tar, Kumbira du Malawi, Marine Jor Roge du Kenya, Ledwin Rako Tozafinoro de Madagascar et Quincy Victory de l'île Maurice. Le Ghana et le Nigeria représenteront le continent à cette compétition qui aura lieu du 5 au 24 août 2018 en France.
Les États-Unis accueillent un grand du foot, Wayne Rooney arrive en MLS.
Et oui, l'international anglais a trouvé un accord de principe pour rejoindre l'équipe de DC United à Washington ici même. D'après la presse britannique, l'offre faite à l'attaquant contrat de 32 ans porterait sur un contrat courant jusqu'en 2020 avec un coût de transfert estimé à 17 millions d'euros. Wayne Rooney, qui a rejoint Everton il y a 12 mois en provenance de Manchester United, a encore un an de contrat avec le club qui l'avait fait débuter en Premier League à seulement 16 ans.
Un mot peut-être en basket.
Oui, Abdou, le dernier billet pour les finales de conférence à NBA est revenu à Boston, qui a défié Philadelphie de Joel Embiid, bien sûr, tombé 114-112.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. On passe au dossier du jour. La Corée du Nord a relâché 3 Américains qui étaient emprisonnés à Pyongyang. Ils sont arrivés sur la base militaire d'Andrews, près de Washington, à bord de l'avion du secrétaire d'État Mike Pompeo. Pour un commentaire sur cette évolution, Eric Manirakiza a joint à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
Oui, bien sûr, c'est une victoire. Je suis sûr que le ministre des Affaires étrangères, M. Pompeo, est allé voir Kim Jong-un et il a dit « Le peuple américain ne peut pas autoriser le président Trump à aller parler avec vous tant que vous avez des otages américains. C'est inadmissible. Il faut les relâcher si vous voulez vraiment commencer un dialogue. » Donc, M. Kim Jong-un a bien compris et il a libéré les otages.
Trump a remercié Kim Jong-un, c'est quand même inédit.
Ça me trouble un petit peu parce que Kim Jong-un, comme un des pires des dictateurs dans le monde, il est reconnu maintenant par président Trump comme légitime. Je crois que c'est un peu tôt pour agir comme ça. Mais M. Trump, après les critiques sur sa décision sur l'accord d'Iran, il a besoin d'une victoire maintenant. Donc, il veut bien avoir un bon dialogue avec la Corée du Nord.
Il y a des signes d'apaisement qu'on voit depuis les Jeux olympiques tenus en Corée du Sud, qui mène la cadence d'après vous, Pyongyang ou Washington?
Je crois que c'est Pyongyang. Tout le monde s'interroge sur pourquoi Kim Jong-un fait ça, parce que jusqu'à les Jeux Olympiques, il était très dur, il a insulté Trump, il était vraiment difficile, mais je crois qu'il a des problèmes. Il a des problèmes surtout économiques. 3/4 de la population en Corée du Nord crève de faim. Et je crois qu'il y a des gens dans l'armée plus jeunes qui sont dangereux parce qu'ils voient leur famille crève de faim. Et aussi, il a eu 2 entretiens dans 2 mois avec le président de la Chine. Ça, c'est très important. Et je suis sûr que le président de la Chine a dit « Il faut changer votre économie, il faut adopter le capitalisme que nous avons fait après la mort de Mao Tse-tung il y a 30 ans. » Et surtout, nous, la Chine va vous donner une garantie sur votre sécurité. Personne ne va vous attaquer.
Et vous pensez qu'il peut renoncer à son arsenal nucléaire?
Ça, c'est très, très difficile. Tout le monde, tous les analystes disent qu'il ne peut pas parce que c'est sa seule protection contre la Corée du Sud. Mais moi, je crois qu'il a vraiment besoin de changer son économie et pour soi, il a besoin des investisseurs, surtout de la Corée du Sud et du Japon et des États-Unis. Et il ne faut pas oublier que depuis son arrivée au pouvoir, il a éliminé un grand nombre de gens, des gens durs, qui ne voulaient pas changer le système marxiste-léniniste, communiste, et il est prêt à commencer à libérer l'économie. Et pour ça, il a besoin d'investisseurs, et pour avoir des investisseurs, il faut qu'il fasse un compromis sur le plan politique.
C'était Herman Cohen, joint ici à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, les 29 membres du gouvernement ont prêté serment ce jeudi au palais présidentiel devant la Cour suprême en présence du président Idriss Déby. La ministre de l'Aviation, Mme Djibergui Amane-Rosine, a cependant refusé de prêter serment au nom de ses convictions religieuses. Elle a été remplacée. Dr Sitak Yompatina, juriste et enseignant à l'Université nationale du Tchad, nous donne plus de détails sur cet incident.
Le président de la République a reçu hier les trois responsables, n'est-ce pas, de confessions religieuses au niveau du Tchad pour leur soumettre la question. Et je pense qu'ils ne sont pas entendus parce que le représentant, n'est-ce pas, de la foi chrétienne a dit clairement que dans la foi chrétienne, on ne jure pas. Jurer était blasphème, c'est parjure. Et ça a des conséquences, n'est-ce pas, sur la famille, sur même quatre générations. Et donc, ils ne pouvaient pas s'engager. Et donc, ils devaient d'abord se concerter pour voir s'il y avait une formule qui devait qui pouvait être acceptée par tout le monde. Mais je pense, finalement, on n'a pas attendu. Aujourd'hui, les ministres sont passés, n'est-ce pas, tour à tour, un à un, devant le président de la République, pour prêter serment. Et donc, certains, je pense, sur la Bible, d'autres sur le Coran, au nom d'Allah, etc.
Justement, parmi ces ministres, il y a celui de l'aviation, du transport et de la météorologie qui a refusé de prêter serment. Pourquoi?
Bon, elle a refusé de prêter serment parce que, justement, elle est non seulement de confession chrétienne, mais responsable également à plusieurs niveaux, je pense, hein, au niveau également de sa congrégation. Et donc, comme je le disais tantôt, dans la foi chrétienne, on ne jure pas. Et donc, elle a décidé justement d'honorer sa foi.
Ne trouvez-vous pas alors que c'est une bonne formule pour les amener à respecter leur engagement?
Non, mais on n'a pas besoin de ça pour respecter les engagements. À partir du moment où il y a un cahier de charge qui est défini clairement, il y a, comment on appelle ça, chaque ministère a non seulement un cahier de charge, mais il y a ce que nous appelons souvent le texte qui régisse, n'est-ce pas, la gestion gouvernementale du manière générale, toutes ces choses sont dedans. Je ne pense pas que cette formule-là qui va arrêter le vol, qui va arrêter le détournement et qui va changer quelque chose, quoi, dans la 4e République. Je ne crois pas du tout. En tout cas, je pense ni moi, ni la majorité des Tchadiens, personne n'y croit.
Le ministre Issa, actuel ministre des Finances, avait été suspendu de ses fonctions pour une affaire de corruption par l'inspection générale du Tchad. Aujourd'hui, il a été promu ministre des Finances. Est-ce que cela augure de la volonté du gouvernement tchadien à lutter contre la corruption dans le pays?
Ah non, mais écoutez, vous le dites si bien, hein, et c'est d'ailleurs, ça fait l'objet de titre, n'est-ce pas, de toute la presse, hein, cette semaine d'ailleurs, hein, faux départ pour le premier gouvernement de la 4e République, et donc ce monsieur est suspendu, il a été d'abord ex-chef de division du contrôle des engagements sur le budget d'investissement, aujourd'hui, n'est-ce pas, par la trace, il devient ministre des Finances, et donc tout ça laisse présager, ou bien renforce davantage, hein, le commentaire que tous les Tchadiens font d'ailleurs, est-ce que vraiment on a la volonté de mettre en œuvre tous les discours qu'on fait?
C'était Dr Sitak Yombatina, joint par Irénée Hermanoumbo.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Les responsables de la santé en République démocratique du Congo mettent les bouchées doubles pour contenir une épidémie d'Ebola déclarée cette semaine. Au moins deux personnes sont mortes du virus dans un village isolé du nord-ouest de la RDC, très proche de la frontière avec le Congo. Les experts de la santé mettent en garde contre toute panique, soulignant le solide bilan de la RDC au cours des dernières années dans la lutte contre Ebola. Le point avec Jacques Aristide.
Le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Lunga, tient la population au courant de la situation via les médias sociaux. Dans un tweet, ce jeudi, soit environ 24 heures après l'annonce initiale de l'épidémie, il indique qu'une équipe de 12 experts est arrivée à Mbandaka, la ville la plus proche de l'épicentre de la maladie, qui se trouve dans la région de Bikoro, près de la frontière avec le Congo-Brazzaville. L'Organisation mondiale de la santé a débloqué 1 million de dollars de son fonds d'urgence pour stopper la propagation d'Ebola dans les provinces et les pays voisins. Médecins sans frontières mène également la riposte et a dépêché des experts sur place. MSF a confié à la VOA que ces experts se trouvaient à Bikoro. Ce n'est pas la première fois que la RDC est confrontée à la fièvre hémorragique Ebola qui provoque une maladie grave et aiguë, souvent mortelle si elle n'est pas traitée. Le virus tire son nom de l'endroit où il a été découvert, la rivière Ebola, un affluent du fleuve Congo en 1976. Il se transmet par contact physique avec des liquides corporels infectés. Le gibier de brousse est considéré comme un vecteur potentiel. Le taux de survie moyen est de 50% d'après l'OMS. Tariq Yarasevich, porte-parole de l'organisation.
Ebola outbreak in part of DRC as well. That was
l'année dernière, il y a eu une épidémie d'Ebola dans une partie de la RDC qui a été contenue relativement rapidement. Donc nous espérons faire la même chose cette fois-ci, envoyer rapidement des équipes dans la région où le virus a été confirmé, être en mesure d'identifier les malades et ceux qui y ont été potentiellement exposés, de mettre en place toutes les mesures nécessaires auxquelles on a recours chaque fois qu'il y a eu une épidémie d'Ebola pour essayer d'arrêter la transmission aussi vite que possible.
Cette dernière épidémie s'est produite dans une zone proche à des rives du fleuve Congo. Parce que cette région est pauvre en infrastructures, ses nombreuses voies navigables sont vitales pour les activités de transport et de commerce. L'épidémie Ebola la plus violente de l'histoire avait frappé l'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés à plus de 99% en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Jusqu'à présent, aucune des récentes flambées en RDC n'a été liée à la maladie en Afrique de l'Ouest. Tariq Yarasevich note que les locaux ont également un rôle important à jouer.
Il est vraiment important que les communautés dans ce domaine particulier soient engagées, travaillent avec les autorités en termes de pratiques d'enterrement sûres, en termes de traçabilité des contacts pour se conformer à ces procédures. Entre l'engagement communautaire est un élément clé dans la maîtrise de l'épidémie d'Ebola.
Il s'agit de la 9e épidémie d'Ebola sur le territoire de la RDC.
Jusqu'au 2 juin, Dakar vit au rythme de la biennale. Au Sénégal, l'art contemporain se met à l'heure rouge, une couleur qui renvoie au texte d'Aimé Césaire et les chiens se taisaient, et qui symbolise l'énergie transformatrice et l'émancipation, thème de cette 13e biennale de Dakar. Le reportage sur place de Momodou Diop.
Depuis le lancement de la Biennale des Arts 2018 le 3 mai, Dakar vit au rythme des expositions. Les artistes ont pris d'assaut la capitale pour présenter au monde leurs œuvres. Dans les musées, les hôtels, les restaurants, la capitale tout entière s'est mise à l'heure rouge, thème de cette édition. La secrétaire générale Mayemba revient sur l'essence même de la Biennale.
La Biennale, c'est un cadre de réflexion à travers les rencontres et échanges. C'est un cadre de réflexion par rapport à ce que cette Biennale peut apporter à notre continent. Donc, en termes, comme je le disais tout tantôt, à la fois économique, mais également social, environnemental, politique bien sûr. Et l'idée, c'est de dire quelle est la contribution de la culture dans notre développement.
Dans la partie 1 du Dakar, des artistes venus des quatre coins du monde présentent leurs œuvres. Avec son installation composée de miroirs, de néons et d'une vingtaine de caméras de surveillance, l'artiste franco-béninois Emo de Medeiros donne le ton. Pour lui, le concept de panafricanisme peut avoir comme support la culture.
C'est l'occasion, je pense, de faire des propositions artistiques qui sont dans un contexte différent. Et ça me tient beaucoup à cœur parce que je suis assez panafricaniste, donc c'est une biennale qui est panafricaine et je pense que le fait qu'on soit autant d'artistes représentant autant de pays africains à participer à cette biennale est une direction, on va dire, est un pas dans la direction du panafricanisme, même si c'est un pas artistique pour le moment.
Si la partie hymne de la Biennale occupe le plus souvent les bâtiments officiels, les propositions off se trouvent dans certains espaces dédiés à l'art, mais surtout dans des espaces alternatifs, maisons privées, cours, restaurants, hôtels et espaces publics. Une décentralisation qui met en question l'aspect unique de la Biennale. Fode Camara fait partie des artistes pour qui le Dakar est un moyen de se montrer au grand public.
Mais au départ, moi, je ne participais pas aux expositions. Je ne faisais que faire le montage des expos. C'est en ce moment-là que l'État a décidé de m'exposer à la Gare de Nassau pour montrer que je suis plasticien. Je fais aussi de la peinture.
Célébration de l'art contemporain en Afrique, la Biennale ne se passe pas seulement dans la capitale sénégalaise. D'autres régions comme Saint-Louis accueillent aussi plein d'artistes durant tout ce mois de mai.
La la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Georges Léonard Sagno qui l'a mise en onde. Présentation Abdourahmane Dia, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.